continuer l'étude, le commentaire de la voie du Bouddha. Et je vous invite en préliminaire à ce que nous nous tournions vers l'éveil, entrer en présence de l'éveil et à générer une motivation bienveillante, altruiste, de bonté, compassion envers tous les vivants. Bodhicitta. Om Ahong Tashidele. La dernière fois, nous avons vu une présentation des étapes générales de la voie du Bouddha dans les trois yanas, les trois voies, cheminement ou véhicules. Et nous avons vu comment ces trois véhicules sont en quelque sorte convergents, comment ils sont des moyens convergents d'éveil vers une même expérience spirituelle. Nous allons maintenant, dans le chapitre suivant, voir plus particulièrement la complémentarité des trois yanas. Ils sont des approches qui correspondent à des disciplines extérieures, intérieures, fondamentales, complémentaires et pour différentes circonstances, différentes étapes de la voie. Tous les enseignements du Bouddha peuvent être regroupés en ces trois niveaux ou approches complémentaires que sont Hinayana, Mahayana et Vajrayana, la voie de la discipline, la voie étroite, Hinayana, la voie ouverte, la voie large, universelle, Mahayana, et la voie adamantine, fulgurante, la voie Vajra, le Vajrayana. Donc, trois méthodes. Nos conditionnements, nos problèmes et nos douleurs ont, comme nous l'avons vu, leur origine dans les dispositions négatives de notre esprit. D'abord son ignorance et de celle-ci, les attitudes égoïstes et passionnelles. Les différents aspects du dharma sont des moyens pour dissiper cette ignorance. Alors, cette ignorance, ce manque d'intelligence fondamentale de la nature de la réalité, pour dissiper ignorance, ces négativités, les négativités qui procèdent de l'ignorance, et ce, suivant les besoins et aptitudes de chaque vivant. Que ce soit en l'en protégeant, donc il y a un niveau de protection, en les transformant ou en les libérant par la simple reconnaissance de la nature de ces passions et négativités. Donc, trois étapes. Se protéger des passions en se tenant à l'écart de leurs causes et l'approche des enseignements du Hinayana, le véhicule étroit ou petit véhicule. Donc, se tenir à l'écart des circonstances qui seraient problématiques, qui seraient ingérables, qui nous amènerait dans des attitudes passionnelles. Donc, il y a une discipline de protection, une discipline de défense, défense aussi bien dans le sens que l'on s'interdit certains comportements et que ces défenses sont pour nous aussi des protections qui nous gardent de situations problématiques et incontrôlable. Donc, cette discipline extérieure, c'est le premier niveau. Ensuite, les transformer, transformer négativité et passion, c'est-à-dire faire qu'une passion ou une tendance négative égotique devienne une attitude positive et altruiste, fondée sur l'amour et la compassion. C'est principalement l'approche Mahayana, le grand véhicule. Donc, le grand véhicule, le Mahayana, est ainsi aussi nommé la voie de la transformation et transformer les attitudes égoïstes en attitudes altruistes, transformer la colère en bienveillance et ainsi un entraînement qui transforme les passions et les illusions. Ensuite, troisième niveau, il s'agit de reconnaître simplement. Reconnaître simplement la nature des passions et ainsi s'en libérer, les transmuter dès qu'elles apparaissent dans l'esprit, correspond principalement aux enseignements du Vajrayana, le véhicule adamantin. Reconnaître simplement et simplement voir, simplement laisser être sans qu'il y ait d'intervention. Dans cette simple recognition des passions qui les laisse sans suite et permet leur transmutation et l'approche des enseignements du Vajrayana. L'approche Hinayana, continue Vajradhara Kanwenpachi, consiste à garder une discipline parfaite en abandonnant les conduites qui nuisent à autrui et à soi-même. Les comportements négatifs sont, on pourrait dire, un double méfait. Les comportements négatifs sont ce qui fait du tort aux autres et à soi et aux autres. Donc, d'abandonner, de délaisser, de renoncer à ces conduites négatives. Et cette discipline extérieure du Hinayana aussi protège des obstacles et des distractions permettant de méditer en un état d'absorption sur une unique chose. Donc, il y a aussi une protection par rapport aux distractions, c'est-à-dire les situations qui nous possèdent et qui nous distraient, que ce soit de la discipline ou que ce soit de la présence. La voie du Hinayana est aussi fondée sur la pleine présence, l'attention, l'attention pure, et ainsi la discipline permet de méditer en un état d'absorption sur une unique chose, one-pointedly, présent à une chose à la fois uniquement, donc cette discipline. L'approche Mahayana consiste à pratiquer conjointement la compassion envers tous les vivants et la méditation sur le sens de la profonde vacuité. Elle met en œuvre, sur la base d'un état d'esprit altruiste appelé esprit d'éveil, les six vertus à parfaire que sont le don, la discipline, la patience, l'effort, la méditation et la compréhension. L'approche du Mahayana est fondée et s'appuie sur celle du Hinayana dans sa discipline extérieure et sa discipline de méditation. Et elle amène en plus la dimension de cœur, d'intelligence du cœur, de compassion envers tous les vivants, en même temps qu'aussi la méditation, la compréhension de la vacuité, le sens de la profonde vacuité. Et c'est ainsi que l'approche du Mahayana est fondée sur ce que l'on nomme bodhicitta, l'éveil du cœur et de l'esprit, dans ses aspects relatifs et absolus, relatifs, relationnels, fondés sur l'empathie bienveillante de la compassion et absolu, immédiat, non-duel. C'est deux aspects de l'esprit d'éveil, bodhicitta. Sa pratique, la pratique de cet esprit d'éveil, se développant dans les six vertus, les six paramitas, comme on les nomme en sanskrit, le don, générosité, la discipline, la patience, l'effort ou le courage, la méditation, la stabilité de l'esprit, l'entraînement à une expérience stable et la compréhension. Compréhension que on peut aussi nommer intelligence ou sagesse, qui est l'expérience de la réalité foncière, l'expérience de la réalité fondamentale. L'approche Vajrayana, elle, est une voie de transmutation, purifiant toutes les activités. Donc, tout ce que l'on fait, sans une exception, se trouve consacré et transmuté en une pratique d'éveil dans et par le Vajrayana. Une voie de transmutation purifiant toutes les activités, émotions et illusions impures et permettant ainsi d'obtenir rapidement l'éveil au moyen des méditations dites de génération et de perfection, Kirim et Dzorim. Génération de la présence de la déité, de son mandala, de sa présence dans tous ses aspects, et ensuite de perfection en laquelle la présence formelle avec nom et forme de la déité se dissout en sa présence ultime, absolue, au-delà des noms et des formes. Alors, maintenant, complémentarité et progression. Complémentarité de ces trois yanas et progression au sein de ceux-ci. Les pratiques hinayana sont plus particulièrement celles de la discipline extérieure, c'est ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire les différents engagements ou vœux tels que ceux de moines ou de fidèles laïcs. Donc, différents types d'engagements, de préceptes, de vœux qui définissent cette discipline extérieure, vœux de pratiquants dans la vie ou de fidèles laïcs, comme on dit aussi, et aussi vœux de monastiques, de célibat, avec les deux niveaux de l'ordination monastique, mineur et majeur. Cette discipline extérieure constitue avec ses bases méditatives, la discipline de la méditation, les fondements du dharma. Donc, discipline de vie dans un comportement sain du corps, de la parole et de l'esprit, et particulièrement aussi au niveau de l'esprit, une discipline de méditation dans l'approche de l'expérience profonde, la présence attentive, la pleine présence. Certains dont les capacités de compréhension sont limitées ne vont pas plus loin que ce niveau. Devant l'exposé de la compassion universelle et du sens de la vacuité, tels qu'ils sont enseignés dans le Mahayana, ils sont effrayés, se bouchent les oreilles et montrent une forte résistance intérieure. Non, ça n'est pas pour moi, ça n'est pas possible, je ne peux pas entendre cela. Il est un exemple célèbre qui, lorsque le Bouddha Sakyamuni enseigna la première fois la vacuité au mont des vautours, il y eut plein de moines arhats qui, en entendant cet exposé, furent tellement bouleversés et choqués qu'ils s'en évanouirent. C'était too much. Si de telles personnes, d'autres aussi, entendent parler du Vajrayana et de ses nombreuses méthodes, leur refus est encore bien plus fort. Ah non! Ce n'est certainement pas le Bouddha qui a pu enseigner ça. Ce sont des histoires. Je ne veux pas en entendre parler. Alors, il est aussi des personnes qui ont, eu égard au Vajrayana, ce genre d'attitude. Il est aussi des personnes qui peuvent comprendre la perspective Mahayana des enseignements tout en ne pouvant accepter leur dimension Vajrayana. Mais en fait, ces trois véhicules, les trois yanas, sont des approches progressives de l'extérieur vers l'intérieur. Une intériorisation et un développement, une explicitation progressive des fondements du Dharma, de l'expérience d'éveil, et avec ce développement aussi des moyens, des méthodes de réalisation de plus en plus précis, profonds et aussi opératifs. Ce sont trois niveaux qui correspondent tant à des aptitudes et des mentalités différentes qu'à des étapes de progression sur la voie. Les trois véhicules étant complémentaires, le mieux est de pouvoir les pratiquer conjointement, les trois s'entraidant. Leur complémentarité peut être illustrée par un exemple. La construction d'une maison. Lorsque l'on construit une maison, il convient d'abord d'établir de solides fondations. Ces fondations correspondent à la discipline Hinayana. Sur les fondations, l'on peut ensuite poser l'édifice proprement dit, c'est le Mahayana, avec la pratique de la compassion et de la vacuité. Et finalement, coiffant l'édifice et poser le fait du bâtiment, sa superstructure, ce sont les méthodes de réalisation particulières du Vajrayana. Il est clair que le toit de la maison nécessite l'édifice proprement dit et que celui-ci doit reposer sur des fondations solides. Ainsi en va-t-il de la progression et de la complémentarité des trois yanas. Cette complémentarité est aussi celle de présentation convenant à différents types de personnes, aux aspirations et aux facultés variées. On a tous des, culturellement, personnellement, des aptitudes, des réceptivités, des a priori, des projections, des mentalités variées. Et l'on peut avoir des difficultés par rapport à certaines approches et inversement, des affinités ou des intérences pour d'autres. Un exemple pour... Dans un grand magasin d'alimentation, un supermarché, les produits, les présentations et les emballages varient grandement. Toutes sortes de présentations, d'emballages, de marchandising, etc. Et chaque client doit choisir ce qui lui plaît. Et on peut être attiré par différentes apparences. Pourtant, la fonction des produits est toujours de nourrir les clients. De même, les différentes approches conviennent à différentes réceptivités, mais conduisent toutes vers l'éveil. Qu'il s'agisse de l'un ou l'autre de ces véhicules, c'est en mettant en pratique l'essence de leurs enseignements que nous pouvons peu à peu progresser dans la voie. Et pour terminer, considération sur les trois yanas en rapport avec différentes traditions bouddhistes. C'est là un point délicat et qui peut être mal compris. Donc, quelques précisions sont nécessaires. Les trois yanas sont aussi les dominantes de diverses traditions bouddhistes hors du Tibet. Mais notre présentation ici, est celle de niveau de pratique et non d'école spécifique. Donc, il serait erroné d'identifier Hinayana, Mahayana, Vajrayana à différentes écoles d'une façon stricte. Qu'il y ait des dominantes, oui, mais et réduction, non. En particulier, dans cette classification, la tradition du Theravada n'est pas à réduire à celle du Hinayana. Et c'est une erreur que font certains mahayanistes, ce serait profondément erroné. Et ce que l'on nomme le Theravada et le Dharma, le bouddhisme tel qu'il s'est développé principalement vers le sud, alors, dans un mouvement de diffusion complexe, mais on en a souvent parlé comme de l'école du sud, et le Mahayana plus comme l'école du nord. Donc il est plus juste de voir des mouvements géographiques de diffusion qui ont correspondu à ces deux traditions. La note qui a été faite ici fait aussi remarquer que ce soit dans le Theravada ou dans le Mahayana, il y a des composantes hinayanistes et mahayanistes. Dans le Theravada, il y a une dimension mahayaniste, il y a l'amour, la compassion du Mahayana qui sont enseignés, pareillement l'altruisme. Et dans le Mahayana, il y a une dimension hinayaniste dans l'importance qui est attachée à la discipline et à la discipline de vie et à la discipline de méditation. Donc les composantes Hinayana et Mahayana se retrouvent aussi bien dans le Theravada que dans le Mahayana. Le Tibet a eu la chance de recevoir directement de l'Inde tous les niveaux de l'enseignement, tant Hinayana et Mahayana que Vajrayana. Le Dharma au Tibet est venu des grandes universités indiennes et il a eu cette particularité de recueillir, le Tibet a recueilli la totalité de la tradition du Bouddha dans tous ses différents volets. Je ne veux pas dire, dit Vajradhara Kalwan Rinpoche, que vous ayez particulièrement de la chance de rencontrer des Tibétains. Ils sont comme tout le monde. Mais par contre, vous avez beaucoup de chance d'avoir rencontré le Dharma du Bouddha tel qu'il s'est transmis au Tibet, car c'est une tradition parfaitement complète, pleinement vivante. C'est une tradition authentique, complète et vivante. Je vous invite à un petit moment de méditation et de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.